Les grands événements du Collège de France.
Bonsoir à tous. Chères auditrices, chers auditeurs, je suis ravi de vous accueillir pour la reprise de ce cycle, Le futur en héritage. Le professeur Philippe Sansonetti, qui initialement devait ouvrir par quelques mots cette session, vous demande de l'excuser car il a dû s'absenter pour des raisons personnelles. Il m'a donc demandé à moi, en tant que responsable de projet Avenir commun durable, de prendre le relais. Donc le cycle avait commencé en juin dernier sur le thème les dilemmes éthiques de l'activisme environnemental, excusez-moi, trou de mémoire. Aujourd'hui donc, changement de sujet, changement de ton, puisque nous allons parler des cités-jardins en tant que modèle potentiel ou à revisiter pour l'urbanisme de demain. Et le Collège de France est particulièrement heureux de traiter ce sujet-là, puisque dans ce même amphithéâtre, il y a un petit peu plus d'un an, nous avions fait un grand colloque sur la question de la ville du futur, qui a donné d'ailleurs lieu à un ouvrage collectif qui a été publié il y a quelques mois, ouvrage qui porte d'ailleurs le même nom, La ville du futur. Donc avant de laisser la parole à nos deux jeunes amis ici présents, donc Henri et Jules, qui auront la charge de l'animation de cette table ronde, je tenais juste à dire quelques mots déjà pour les remercier. Car si en coulisses, le Collège de France et moi-même nous activons pour que l'organisation soit la plus fluide possible, c'est quand même à eux que revient l'essentiel de l'effort, et pour ça, merci. Avant de leur laisser définitivement la parole, simplement souligner que le Collège de France, avec Avenir commun durable, dans sa réflexion sur le changement écologique, la transition écologique, pardon, et la transition énergétique, a conscience de l'importance que prendront et ont déjà les futures générations. Et c'est pour ça que nous tenons à leur laisser la plus grande autonomie dans l'organisation de ces tables rondes. Comme on pourrait le dire, le futur, c'est aussi et surtout les jeunes d'aujourd'hui. Henri, Jules, merci. À vous la parole.
Bonsoir, messieurs, dames. Écoutez, on est ravis d'être là pour vous introduire cette nouvelle conférence dans ce cycle donc de conférences sur le climat. Eh bien, je vais, pour commencer, faire un petit topo, comment dirais-je, historique introductif, pour que vous soyez à peu près au courant de là où on se situe, de l'évolution de la cité-jardin, de son origine et donc de ce qu'elle est devenue de nos jours avant de commencer les échanges avec nos invités. Alors pour commencer, donc, nous sommes en Angleterre au 19e siècle, siècle de la révolution industrielle. L'Europe donc connaît une explosion du nombre d'ouvriers entassés au même endroit dans des logements insalubres parfois avec des conditions hygiéniques déplorables. Et c'est là que c'est dans ces conditions donc un visionnaire apparaît. Et ce visionnaire, c'est le premier à avoir conceptualisé le concept de cité-jardin. Il s'appelle Ebenezer Howard. Donc Ebenezer Howard, en 1898, il publie Tomorrow, A Peaceful Path to the Real Reform. Donc ce sténographe anglais, sans formation d'urbaniste, théorise un modèle visionnaire, donc un modèle du urbain, la cité-jardin. Pour Howard, il faut sortir du dilemme ville-campagne. Donc comme vous pouvez voir ici, donc c'était ce triangle, voilà, qui était vraiment de son concept, et il veut sortir en créant un troisième chemin. Donc ce troisième chemin qui permet d'avoir un mélange, donc une combinaison, des deux, donc qui est l'emploi et les services de la ville, mais aussi l'air pur et les espaces verts de la campagne. Sa vision est radicale, des villes de 30 000 habitants maximum, où le foncier appartient à la collectivité, où l'entrepreneuriat est soumis au vote des habitants et qui subviennent à leurs propres besoins grâce à une agriculture locale et des infrastructures publiques favorisant culture et loisirs. Vous pouvez reconnaître ici un peu une part, comme je projetais juste avant, des cités ouvrières qui sont des concepts qui sont apparus également en France, notamment dans le Nord, qui étaient des concepts donc assez révolutionnaires pour l'époque, avec tous les commerces et tout à disposition donc des ouvriers dans un périmètre très faible. Ensuite, il définit donc les principes fondamentaux de ce concept. Il y en a quatre. La maîtrise foncière publique, donc j'y reviens, La terre donc ne peut être spéculée, elle appartient à la communauté. L'autosuffisance, la gouvernance démocratique et l'équilibre ville-nature. Cette utopie sociale se veut une alternative au capitalisme industriel, au paradis terrestre, selon l'expression de George Ritter en 1909. Donc ce modèle était pour l'instant juste en Angleterre. Il va forcément se retrouver outre-Manche, chez nous, en France. Et il a été concrétisé donc en France dès 1912. Les premières cités-jardins françaises naissent, donc le Pré Saint-Gervais, puis Suresne, et avec Henri Sellier. Donc là, vous pouvez voir directement la cité-jardin de Suresne comme elle était conceptualisée à l'époque. Et ici, vous pouvez voir celle des cités-jardins de Grésillon-Vanières-Genevilliers, qui est un peu plus récente. Donc elles apparaissent principalement en banlieue parisienne, puisque vous savez évidemment que la concentration industrielle se trouvait dans la région parisienne, en Ile-de-France. Alors il y a eu un âge d'or, donc c'est le début du XXe siècle, puis il y a eu une adaptation, des changements. L'entre-deux-guerres marque l'apogée donc de ces cités-jardins. En France, Henri Sellier, en tant que président de l'office public d'HBM de la Seine, développe une quinzaine de cités-jardins en banlieue parisienne. Voilà. Ces réalisations s'éloignent parfois de l'idéal donc, de notre visionnaire donc, Howard, puisqu'il y a moins d'autosuffisance économique. Vous trouvez donc en banlieue parisienne moins isolée que certaines autres usines. Et vous avez des maintiens de principes de faible densité, d'espaces verts généreux et de qualité architecturale, qui sont quand même quelque chose qui reste dans ces modèles. L'objectif social, donc, on peut dire qu'il demeure, qui est offrir aux classes populaires un cadre de vie digne. Ensuite, nous arrivons à une période de critique. Dans les années 20 et 30, Le Corbusier dénonce un modèle anti-urbain, favorisant l'étalement, et vous savez bien, pression immobilière l'impose. D'autres pointent l'isolement spatial qui peut créer un huis clos idéologique ou questionne la durabilité écologique de la faible densité. La question sociale se pose aussi, qui est ces cités initialement destinées aux ouvriers ne deviennent-elles pas des espaces de privilégiés? Justement, on en viendra après au cours des échanges dans ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Et enfin, de nos jours, nous avons un héritage à propos duquel nous allons discuter ensuite, qui est de comment est-ce qu'elles se sont transformées. Est-ce que ce que nous voyons à l'écran est réellement une cité-jardin, ou est-ce que ce n'est pas une adaptation d'espace vert avec juste quelques arbres plantés? Et surtout, nous avons une problématique actuelle qui est face à l'urgence climatique d'aujourd'hui et aux inégalités urbaines. La cité-jardin interroge. Ses principes de démocratie locale, de maîtrise foncière publique et d'équilibre avec la nature résonnent avec nos préoccupations actuelles. Mais ainsi, ses limites s'imposent, puisque faible densité et augmentation des prix du foncier sont quelque chose qui provoque une limite donc, au modèle. Donc maintenant, je vais me tourner vers deux intervenants. Je vais vous introduire. Donc, Noémie Morin-Guesne, vous êtes donc coordinatrice de l'association des cités-jardins d'Île-de-France. Et Jean-Baptiste Minert, vous êtes prof, donc professeur d'histoire contemporaine.
De l'art contemporaine
à Sorbonne Université. Et donc, je vais me tourner vers vous avec une première question. La cité-jardin a été conçue par Howard comme une utopie sociale, autant qu'urbaine. Comment cette politique résonne-t-elle avec les enjeux de l'urbanisme durable aujourd'hui? C'est une question qui va introduire en fait toute la suite. Si vous voulez, je passe directement à des questions un peu plus précises qui vous permettront donc d'avoir un développement suite à ça. Donc, pour commencer par celle-ci qui est assez intéressante. Par rapport à, selon vos expériences et au regard du passé, comment les jardins actuels sont-ils susceptibles d'évoluer? Est-ce que vous voyez, par rapport à l'héritage historique, une manière et un futur à ces cités-jardins?
Alors peut-être déjà il faut recontextualiser aussi l'histoire des jardins.
et l'histoire, parce que donc les cités jardins, c'est à la fois des jardins, des espaces verts, mais aussi des jardins ouvriers, jardins nourriciers. Donc déjà, l'histoire entre les deux est un petit peu différente. Il faut rappeler que jusqu'à la fin du XVIe siècle, les jardins étaient davantage protégés par les villes, par les abbayes, et que c'est à partir du XVIe siècle que les jardins et les maraîchers aussi vont petit à petit occuper la banlieue parisienne. Et donc, c'est vrai qu'il y a une continuité, déjà, là-dessus. Et avant de parler d'urbanisme durable, et je pense qu'il faut aussi rappeler que les cités-jardins, elles arrivent au XIXe siècle, où il y a un vrai besoin de répondre à des enjeux d'hygiène, puisqu'on découvre les problèmes d'épidémie. Pour rappel, c'est en 1878 que Cédillo va parler de microbes. Hein, donc on est vraiment dans cette période-là, avec entre les casiers sanitaires et les îlots insalubres, et on va développer un petit peu ça. Même un petit peu avant, si on remonte, c'est déjà sous Rambuteau qu'on va commencer à aussi aménager les espaces verts en ville, avec la plantation de nombreux arbres sur les grandes artères. Et donc, les cités-jardins, c'est cette continuité-là de l'hygiénisme social. Déjà, ça, c'est une première chose, peut-être, pour répondre. Et puis, en effet, après, les cités-jardins, donc, comme je vous le disais, il y a à la fois des espaces verts et à la fois des jardins nourriciers. Et quand on fait une évolution dans le temps, après, on va avoir aussi la question... On va dire que ça va se scinder en deux branches qui vont être plutôt les grands ensembles, comme on peut avoir avec Drancy-Lamuette, qu'on considère comme la dernière des cités-jardins et le premier des grands ensembles, parce qu'en fait, si vous voulez, Eugène Baudouin et Marcel Lodz, qui étaient les architectes de la cité de la Muette, ils avaient été commandités par l'Office public d'habitation à bon marché de la Seine, dont vous parliez, de Henri Seillier, et ils avaient fait un premier plan qui était plutôt de l'ordre d'une cité-jardin, hein, dans les cités-jardins programmées par Henri Seillier. Et puis finalement, le mouvement moderne est arrivé, comme vous l'avez justement fait remarquer. Ils ont travaillé aussi avec Jean Prouvé, et c'est devenu les quartiers que vous pouvez connaître, hein, qui est le camp de Drancy, hein, donc beaucoup plus résolument moderne et qui se rapproche du grand ensemble. Et en parallèle, vous avez aussi, parce qu'on parle de département de la Seine, donc avec une densité urbaine plus importante, mais il y a aussi le département de la Seine-et-Oise, qui ont construit aussi de nombreuses cités-jardins en Île-de-France, ou ailleurs d'ailleurs, hein, dans d'autres grosses villes, il va y avoir aussi à chaque fois des cités-jardins. On retrouve à chaque fois dans les villes, que ce soit Lyon, Marseille, Nantes, Lille, Strasbourg, des cités-jardins à chaque fois. Et donc, il va y avoir plutôt aussi des cités-jardins qui vont être que du pavillonnaire. Et à ce moment-là, ça va s'orienter plutôt vers du lotissement. Par exemple, vous connaissez peut-être Kaufmann & Broad ou Levitt, qui sont deux gros promoteurs immobiliers américains. Et une des cités-jardins qu'on a redécouverte il y a 2 ans, au Ménil-Saint-Denis, qui est donc du coup la résidence du château, eh bien, elle s'installe véritablement sur le plan, le projet de plan de la cité jardin où il y a quelques maisons qui ont été construites, et finalement c'est Levitt en 1965 qui va ramener ce projet. Voilà, donc un petit peu pour l'historique là-dessus. Je ne sais pas si j'ai un peu commencé à répondre.
Vous me donnez merveilleusement la réplique, parce que j'ai fait soutenir une thèse sur les opérations de Levitt en France à partir de 65, et c'est tout à fait juste. Au Ménil-Saint-Denis, il y avait une sorte de cité-jardin municipale. Il faut s'entendre sur le terme de cité-jardin, pardon, je me tourne vers vous. Il faut s'entendre sur le terme de cité-jardin, parce qu'en fait, il y a cité-jardin et cité-jardin. Je vous montrerai un petit peu les glissements sémantiques. Mais il est vrai que dans les années 30, le maire du Ménil-Saint-Denis met en place une cité-jardin, enfin plutôt une banlieue jardin, et le glissement de sens n'est pas neutre, qui s'arrête, et William Levitt, qui a fait fortune à créer des grandes opérations de lotissement pavillonnaire à partir du retour des GIs aux États-Unis, qui reviennent du théâtre du Pacifique et d'Europe, et à qui le gouvernement américain promet, donc verse des aides immobilières et d'études, permettent au GI de se reconvertir, de revenir dans la vie civile, et William Levitt les attend avec une production industrialisée et sérialisée de pavillonnaires. Et William Levitt met en place une filiale française en 65, et qui va mettre en œuvre, là c'est moins une cité-jardin jardins, bien que ça en reprenne fortement le principe, ce qu'il appelle des Levittowns ou des Levittvilles, au milieu de Saint-Denis, c'est 600 maisons, si ma mémoire est bonne, et ensuite il y a Lézigny, Mency. Et je rembobinerai après sur l'histoire, mais ce qui est très intéressant pour répondre à votre question sur l'avenir des cités-jardins, c'est qu'effectivement, William Levitt a commencé à construire des cités-jardins à l'américaine, vous savez, avec du bardage blanc, le carporte inséré dans la ligne de chéneau de la maison, pas de barrière, petite pelouse devant, et ces banlieues, ces Levittville sont dans toutes les publicités, dans toute, je parlais de la vie domestique d'Isabelle Tsaïkia, est tournée à Lézigny, qui est une autre grosse opération, et qui sont assez critiquées comme étant des vecteurs d'américanisation, mais en même temps, qui accompagne la motorisation des jeunes couples primo-accédants cadres supérieurs des années 60, qui travailleront à la Défense, etc. etc. Et Levitt, et là encore, Noémie le dit très justement, se fait presque voler son idée par Kaufman et Broad. Kaufman et Broad, qui est lui, non pas un builder de la côte Est, mais un Californien, arrive en France en 69. Levitt ne renouvelle pas suffisamment ses modèles, fait faillite en 80, et Kaufman et Broad continue à nous dispenser les maisons qui ont toujours très mauvaise presse. Et là, en fait, la raison de fond qui nous fait avoir eu l'honneur d'être invité par vous ici au Collège de France, c'est de voir en quoi les cités-jardins ont été des idéaux et ou des repoussoirs. Et aujourd'hui, dire qu'on habite dans une maison Kaufman et Broad, c'est à double tranchant, il faut savoir à qui on s'adresse. Ça peut être un outil de promotion sociale auprès de certains, ou d'autres, ah oui, vous habitez dans du Kaufman et Broad, ouf, bon, moi j'habite en centre-ville, voilà, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Mais, en fait, les cités-jardins telles que théorisées par Ebenezer Howard en 1898, c'était un idéal social. Alors que les Levittville ou les Levittowns américaines n'ont pas d'idéal social. C'est une opération immobilière, on fait du profit et tout le monde est gagnant. Hein. Et même les accédants ont dans leur cuisine ou leur buanderie des sèches-linges de Marc Bendix, etc. Tout est vendu clé en main avec le catalogue, la clé. Voilà, ils n'avaient plus qu'à apporter la maison et les meubles étaient même prédessinés ou dessinés par la firme Levitt. Voilà, mais ça c'est autre chose, c'est plutôt de la suburbia américaine réimportée en France, à partir des années 60. Alors que les Garden Cities, telles que théorisées par Howard, ont un idéal social très clair, qui est celui, comme vous l'énonciez très bien, de donner une dignité à une classe ouvrière qui n'en avait pas, d'intégrer aussi la question des jardins ouvriers. Hein. Alors ça, ce sont deux choses différentes. Les jardins ouvriers en France ont été créés par l'abbé Lemire en 98, mais sont un phénomène parallèle aux cités-jardins, dans la mesure où le jardin de la cité-jardin, votre maison, vous permettait évidemment de planter 4 ans de carottes et d'améliorer votre ordinaire, d'avoir une nourriture plus saine. Tout cela, évidemment, avec un contrôle du donneur d'ordre. Alors initialement, vous nous avez montré la cité Dollfuss à Mulhouse, qui là... Et avant, on est en 1853, donc c'est pas encore l'idéal théorique de Howard, mais Dollfuss veut, c'est un patron philanthrope, il sait très bien que primo, il y a une misère épouvantable dans la jeune révolution industrielle française qu'il faut résorber, ça c'est l'idéal positif, mais Dollfuss est un homme d'affaires, il sait très bien que s'il veut garder ses ouvriers qualifiés, la première chose c'est de correctement les payer, correctement les former, correctement les soigner, et surtout correctement les loger. Donc c'est un faisceau d'intérêts bien compris. Et donc ces cités ouvrières, Bourneville, Ponson Light en Angleterre, et bientôt les deux Garden Cities, proprement dit, j'y reviens pour les spécifier, de Letchworth en 1904, construites d'après les principes de Howard, et de Welwyn, toujours construites d'après les principes de Howard en 19, elles sont spécifiquement... des cités-jardins qui, en plus du projet philanthropique, mettent en place un idéal social beaucoup plus carré, avec une approche financière différente, une maîtrise du foncier, une maîtrise des flux de population, de densité bâtie, et surtout l'insistance, et ça c'est fondamental, l'insistance à ce que les cités-jardins, qui sont plafonnées à 32 000 habitants, puissent graviter éventuellement autour d'une cité, une central city de 58 000 habitants, mais pas plus, quand on atteint la population maximale, on ferme les opérations de chantier, on crée une autre cité-jardin à côté. Et ça, c'est totalement séminal pour un siècle d'urbanisme en Occident que de penser que la ville tentaculaire héritée de l'histoire, Londres, est un modèle non réformable, irrattrapable, définitivement pathogène et définitivement pourvoyeuse de crimes et de révoltes. Et pendant... tout le XXe siècle, jusqu'à dans les années 70, on va postuler que les villes tentaculaires héritées de l'histoire sont pas réformables. Et que s'il y a quelque chose à faire, c'est en pensant leur croissance au-delà de leur état présent, par le moyen d'un urbanisme qui planifie, non plus de la surdensité, mais qui planifie de un étalement urbain contrôlé, maîtrisé, au bénéfice du bien-être des populations ouvrières principalement. Et donc, il y a le modèle de Howard dans Tomorrow, Peaceful Path to a Real Reform, publié en 1998. Mais il y a en France, trois ans plus tard, le prix de Rome, Tony Garnier, l'architecte urbaniste lyonnais Tony Garnier. Le garçon est envoyé à Rome parce qu'il est enfin pris de Rome après quatre tentatives en 1899. Il est pris de Rome, il part à Rome, et plutôt que de faire des relevés d'après l'antique, ce pourquoi la République le paye, il dessine une ville industrielle. Et évidemment, l'Académie des Beaux-Arts lui dit « Écoutez, monsieur Garnier, vous êtes bien gentil, mais la République vous paye pour faire des relevés d'après l'antique, pour vous pénétrer de culture méditerranéenne et antique, romaine, grecque, etc. » Et Tony Garnier se fait taper sur les doigts, il n'en poursuit pas moins la conception de sa cité industrielle. Il rentre en France, non pas à Paris, où tous les prix de Rome auraient eu un destin, ou ont un destin, mais à Lyon, où il va travailler immédiatement pour Édouard Herriot. Et en fait, il a publié sa cité industrielle en 1917, mais il a revu sa copie, etc. Mais il l'a quelque part un peu mis en œuvre par morceaux dans le Lyon, en forte croissance. Le stade Gerland, c'est lui. Les abattoirs de la Mouche, l'actuel Arthur Garnier, c'est lui. L'hôpital Édouard Herriot, autrefois la Grange Blanche, c'est lui, etc., etc. Et là, apparaît avec les cités-jardins la notion de zonage, à savoir que si on veut penser enfin la croissance des villes, il faut prévoir la bonne répartition des populations. Et ça, c'est des architectes et urbanistes allemands comme Baumeister ou comme Steuben qui disent « Attention, les villes médiévales dans lesquelles, dans des rues larges comme ce bureau, stagnent la tuberculose et la misère humaine, sont irrattrapables, mais pensons que les villes, en ce boom démographique et de révolution industrielle, croissent plus vite que notre capacité à les conceptualiser. » Donc il faut absolument mettre en place une pensée urbaine qui soit une pensée de la croissance et une pensée de la prévision. Donc si les villes tentaculaires héritées de l'histoire sont pas rattrapables, au moins rattrapons-les par leur périphérie. S'il y a une forêt, on ne la dérase pas pour faire une usine, on maintient, ça devient le futur parc central. La forêt était périphérique, elle devient un parc central, etc. etc. C'est le principe du zonage. Et tout ça va amener les architectes, qu'ils soient du mouvement moderne comme Le Corbusier ou d'autres, qui sont étrangers ou théories de Corbusier, de dire on ne peut penser la croissance de la ville que par la planification à long terme, 20, 30, 40 ans, de ses fonctions. Les logements ouvriers ici, la forêt qu'on ne détruira pas là, l'usine isolée des habitations pour les questions de prévention de la pollution ici, les zones commerciales là, etc., etc. Et ce zonage a permis aux modernes de se dire qu'enfin on avait la matrice intellectuelle pour produire une ville qui absorbe l'immigration urbaine, les migrations rurales, qu'on a enfin la matrice qui permette de contrôler la croissance des villes plutôt que de fabriquer de la surdensité sur une trame de voirie trop étroite. Hein, je vous rappelle qu'avant Haussmann, qui prend ses fonctions à la préfecture en 1853, la moyenne des rues de Paris, c'était 4 mètres, la moyenne. Voilà. Donc forcément, il y a du travail et Haussmann va travailler sur la ville-centre et on va lui reprocher. D'ailleurs, M. Haussmann, il le dira dans ses mémoires, on m'a reproché d'en avoir travaillé sur la ville-centre, mais il y avait tant à faire. Et alors
je voulais revenir justement, excusez-moi.
Et j'ai fini. Oui, oui. Excusez-moi, je suis bavard comme une pie.
J'ai une petite question comme ça qui me passait par la tête. C'est par rapport à la disposition du bien-être ouvrier et donc par rapport à la géographie notamment, qui est du bon air. On a vu la construction de Paris, notamment entre les quartiers chics et les quartiers plus pauvres, une différenciation entre l'ouest et l'est, donc les usines étant basées à l'est puisque le vent vient d'ouest, et qui poussait toute la pollution vers les populations les plus précaires, d'où le mètre carré, enfin à l'époque, qui était bien moins cher à l'est. Oui. Est-ce qu'il y avait une conception à peu près semblable dans le bien-être des ouvriers, qui était donc de placer en fonction des vents une différence donc de localisation des ouvriers, c'est-à-dire qu'il y avait des ouvriers qui se trouvaient non sous le vent des fumées des usines. C'est-à-dire que le patron, entre guillemets, avait placé les ouvriers, en tout cas, dans un endroit qui était plus sain. Est-ce que ça, on a vu la même chose ? Est-ce que ça a été jusque-là, la pensée justement du bien-être ouvrier ? Je ne sais pas si Naomi, justement,
parole, parce que sinon,
madame, vous pouvez...
Dans la cité industrielle de Tony Garnier, les habitations sont à l'ouest. D'accord. Les industries lourdes sont à l'est.
Ok, donc c'était déjà réfléchi par rapport à ça.
Voilà.
Très bien.
Et...
Sur le logement ouvrier, en fait, c'est-à-dire que il va y avoir justement dans l'architecture hygiéniste une pensée en tous les cas de faire en sorte que déjà l'air puisse circuler. Il y avait beaucoup de calculs très précis, notamment par exemple Augustin Rey a travaillé sur le nombre de mètres cubes d'air, donc il fallait que la hauteur sous plafond soit suffisamment importante, les fenêtres suffisamment grandes pour qu'il y ait cette circulation de l'air. Alors je parle pas de l'orientation parce que
c'est directement au sein des usines finalement, de la hauteur sous plafond, ou même c'était par rapport aux machines, c'est ça sur le travail?
Non, dans les logements.
Dans les logements, d'accord.
Dans les logements, par exemple, le meilleur exemple, ça reste le familistère de Guise, où en fait, pour un souci d'équité, les fenêtres au rez-de-chaussée sont plus grandes que les fenêtres au dernier étage, pour que tout le monde ait le même ensoleillement, par exemple. Et pour rattacher, en fait, avec les cités-jardins, dans les cités-jardins, il y a le prospect, en fait, c'est la distance entre deux immeubles et du coup, le ratio, en fait, entre la hauteur de l'immeuble et la distance des immeubles. Et donc il y a eu des lois, hein, notamment à la fin du 19e siècle, sur ces questions-là à Paris. Et les cités-jardins, elles vont pousser, en fait, cette loi du prospect pour qu'il y ait vraiment des espaces suffisamment larges entre les immeubles pour que le soleil, quoi qu'il arrive, arrive dans les logements. Je fais un petit détour, je reviens sur les cités-jardins, hein, mais pour qu'il y ait de l'air qui arrive jusque et du soleil qui arrive dans tous les rez-de-chaussée avec des appartements traversants, idéalement orienté est-ouest pour qu'il y ait du soleil tout le temps. Donc là, on n'est pas sur la question des usines. Sur la question des usines, en fait, le schéma de principe des Ebenezer Award, il est un schéma concentrique. Donc du coup, bah, y a des usines tout autour. Donc la question ne se pose pas tout à fait de la même manière. L'idée, hein, vous l'avez peut-être en tête, mais c'est au centre d'un schéma, le concept, parce que Ebenezer Award, comme vous l'avez rappelé, c'était un sténographe. Et pourquoi ça a aussi bien marché son ouvrage, qu'il a après republié en 1902 sous le nom de Garden Cities, c'était parce qu'il avait aussi des schémas très percutants et qui fonctionnaient très bien. Dès le départ, il y a eu aussi un peu une sorte d'engouement du grand public sur les cités-jardins et sur ce concept. Je ne sais plus quel journal grand public anglais, on disait que ce principe de cités-jardins était aussi loufoque que le débarquement des Martiens par Théo par Orwell, donc pour vous dire aussi, et d'autres qui étaient pour, enfin voilà, ça a tout de suite amené un peu un débat. Et donc un de ces schémas principaux, c'est donc un cercle, au centre les équipements, donc bibliothèque, musée, voilà, tous les équipements, hôpital, etc., tous les équipements publics importants, un grand parc tout autour, une Crystal Avenue, qu'il appelait Crystal Avenue, qui était en fait tous les commerces un peu, hein, donc un patio avec les commerces, puis après plusieurs cercles avec des logements, dont un où il y avait aussi les petits équipements publics type dispensaire et école qui étaient un peu plus proches dans un deuxième cercle. Ensuite, on a donc du coup tout ce qui est petite manufacture, donc menuiserie, pour faire de la confiture ou ce genre de choses. Et enfin, à la fin, ce qu'on voit moins dans les schémas, c'est aussi tout le reste qui, en fait, est presque 50% du concept d'Ebenezer Award, qui sont justement les forêts, les champs, les cimetières, toute cette partie-là aussi qui est très importante. Voilà, pour vous dire. Et je voulais juste rappeler juste une petite chose, pardon. C'est qu'en plus d'Ebenezer Award, le concept français, il s'inspire aussi beaucoup de Georges Benoît Lévy, qui était donc du coup une personne qui a été mandatée par un groupe qui s'appelait le Musée Social, de la fin du 19e siècle, où il y avait justement des personnes importantes comme Jules Siegfried ou d'autres qui étaient donc des ministres, des architectes, Augustin Rey aussi faisait partie, qui réfléchissaient à la question du logement insalubre et qui ont du coup mandaté Georges Benoît Lévy pour aller un peu couvrir la construction de la première cité-jardin de Letchworth. Et il est revenu avec des préconisations très françaises qui se rattachent beaucoup plus au projet public, au fait des offices publics d'habitation à bon marché, donc la question du logement social comme on la connaît à la française. Et on parlait, comme vous le disiez, plutôt de banlieue-jardin, de quartier-jardin, avant que ça arrive à cité-jardin. Au début, c'était pas trop ça. D'ailleurs, encore aujourd'hui, les Anglais, quand ils arrivent, ils disent, c'est pas une cité, parce que pour eux, city, c'est avec un maire, c'est une grande ville, avec une autonomie administrative, ce qui n'est pas du tout le cas des cités-jardins françaises.
Oui. Alors, pour revenir justement un peu sur cette notion de jardin, qui est quand même importante dans le terme de cité-jardin, comment est-ce que vous percevez l'évolution temporelle du jardin dans nos villes, particulièrement du rapport entre cette architecture et la nature dans les projets urbains anciens ou nouveaux? Et plus particulièrement, comment l'invention de la cité-jardin a-t-elle été un tournant dans cette évolution, que ce soit par sa part sociale, dont vous avez déjà un peu évoqué, ou environnementale?
C'est moi?
Comme vous voulez.
Ok. Alors effectivement, ce que disait Noémie fort justement, c'est que ces cités-jardins inventées par Letchworth, Howard, se concrétisent très ponctuellement à Letchworth et à Welwyn, dans la banlieue de Londres. Mais Georges Benoît Lévy, qui est un personnage en France qui est fondamental, c'est un peu ce qu'on appelle en anglais, excusez-moi ce mauvais anglicisme, un go-between, qui va entre, importe, mais aussi critique le modèle anglais dans sa possibilité d'être appliqué à des réalités foncières, des réalités économiques, voire politiques propres à la France. Et déjà, Howard, quand il voit appliqué par des architectes qu'il mandate, Barry Parker, Raymond Unwin, Alex Schwartz, est bien obligé de implanter son diagramme circulaire dans des réalités foncières de la grande banlieue de Londres. On est à 60 km au nord de Londres. Bah oui, il y a des champs, il y a des forêts, il y a des cours d'eau, il y a une voie de chemin de fer existante. Donc, il y a aussi cette tension dans l'architecture, l'urbanisme du XXe siècle que de penser ou alors de pleurer le passage de l'idée à ces matérialisations. Et on voit, je réponds à votre question, un certain nombre d'architectes qui disent, bah oui, mais ces cités-jardins, ou alors, comme le font les Allemands sous la République de Weimar, qui vont densifier la notion sous le terme de Siedlung, hein, une cité en allemand, disaient, mais c'est bien gentil, on veut construire des logements peu denses, bien orientés, mais pour ça, il faut avoir la maîtrise du foncier, il faut avoir la maîtrise de la forme des parcelles, et sans la maîtrise de la forme des parcelles et du foncier, on ne peut rien faire. Et qui maîtrise le foncier? C'est pas nous, c'est l'autorité politique. Si on n'a pas préempté les terrains en amont, c'est fichu. On pourra toujours être des génies de l'architecture. Si les parcelles sont majoritairement orientables plein nord, c'est fichu. Et en fait, il y a aussi un deuxième point, pour répondre à votre question, c'est que des architectes théoriciens comme Le Corbusier, dans les années 20, vont dire, attention, les cités-jardins, c'est une fausse bonne idée. Oui, c'est formidable pour les quelques élus, trop peu, c'est une goutte d'eau dans la mer qu'on satisfait en construisant les cités-jardins du département de la Seine. Bravo, c'est quelques milliers de familles qui auront leur maison, leur petit lopin, et éventuellement qui négocieront leur transport, ce que les Belges appellent le navetage, des nafter commuters en anglais. Et ok, mais Le Corbusier n'est pas le seul, et Henri Cellier, qui est sénateur maire de la ville de Suresnes et président de l'office HBM du département de la Seine, le dit assez vite. Les prix des terrains augmentent en flèche après 1918, et le gros des budgets sont aspirés par l'achat des terrains, et après on est bien embêté pour construire quelque chose de potable, alors que le gros du budget a été pompé par l'achat du foncier. Est-ce qu'on va tenir longtemps? Et au demeurant, quand on voit les cités-jardins franciliennes, ça commence par des petites maisons, et Noémie le disait très bien, à la cité de la Muette de Drancy, on est dans une densification nécessaire pour tenir l'équation financière, qui prélude à ce qu'on appellera, dans les années 50, des grands ensembles. Mais les Siedlungen allemandes sont aussi une densification nécessaire à la, à la montée des prix du terrain, à la montée des coûts de la construction et à la pression démographique toujours croissante. Voilà. Et les jardins là-dedans. Alors, j'ai travaillé sur, il y a 25 ans, sur la ville d'Héliopolis au Caire, qui était une sorte de ville satellite en plein désert, et qui est maintenant le quartier chic au nord du Caire. Si vous atterrissez à l'aéroport du Caire et vous rentrez dans le centre-ville, vous passez par Héliopolis. Et en plein milieu d'Héliopolis, il y a des immeubles qui s'appellent Garden City. C'est des immeubles qui font 5 étages. ou de jardin, vous avez un lopin de verdure et de charmante bougainvillée, large comme ce bureau. Mais c'est vendu Garden City parce que le terme fait vendre. Et Georges Benoît Lévy, dans ses écrits, dans les années 1900, 1910, dit, mais ah oui, mais attention, est-ce que ce que tel à tel fait de du terme de cité-jardin tel qu'il l'applique en France, tel capitaine d'industrie, tel office HBM départemental, est-ce qu'on peut encore appeler ça la cité-jardin? Non, parce que comme Noémie le disait très bien, on n'a pas assez d'équipements qui permettent une certaine autonomie fonctionnelle de la population. Il faut que les femmes puissent, alors pendant un temps, le fait que les femmes restent au foyer était un outil de promotion de la condition féminine. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, on s'est aperçu, et les femmes ont dit, on est à l'usine, on a touché des salaires, nos maris sont morts, nos frères, nos fils sont morts, on continue à travailler, en fait. Et dans les années 20, le fait que les femmes se voient, valorisées à rester à la maison est de moins en moins tenable, et les expériences soviétiques, au contraire, c'est de construire en architecture des villes qui sont conçues pour les femmes au travail. Vous voyez, un changement de paradigme. Et les jardins dans tout ça, eh ben, Le Corbusier, dans son ouvrage de 1923, mais vers une architecture, il dit, si des jardins, ça consomme trop de foncier, c'est pas tenable. On fait un élu pour 99 frustrés qui continueront à vivre dans des taudis. Faisons, et Corbu le dit en 23, dans vers une architecture, des... l'Alzheimer avant, j'ai oublié le terme, des sortes de cités-jardins verticales, des immeubles villas, qui permettent d'empiler verticalement dans une charpente en béton armé des maisons individuelles avec leur lopin de terre. Mais le petit jardin peut être à 40 mètres de haut. Voilà, et il fait une sorte de compression verticale ultra dense et métropolitaine de la notion de cité-jardin. Sauvage, Henri Sauvage, au 26 rue Vavin, dit on va construire un immeuble avec des appartements en gradins, et chaque gradin, ce sont des balcons. On pourra faire pousser des fleurs, peut-être pas des carottes rue Vavin, ça ferait mauvais genre, mais des fleurs, de manière à une sorte de compression pyramidale de la notion de cité-jardin. Voilà. Et finalement, on a cette tension dans l'urbanisme du XXe siècle entre le fait de faire des banlieues pavillonnaires auxquelles finalement beaucoup aspirent, et le fait qu'on n'a pas toujours les moyens de se les payer. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en tout cas, je m'arrête parce que je prends beaucoup de temps.
Oui, allez-y, on reviendra justement au cas où sur la mixité sociale juste après.
Ah, parfait. Juste pour répondre sur la question, est-ce que les cités-jardins, c'est un tournant là-dessus? En fait, c'est pour ça que j'ai trop rapidement peut-être introduit le fait qu'il y a les jardins de plaisance et les jardins nourriciers. Et il me semble que peut-être les cités-jardins est un des premiers concepts qui va fusionner cela, c'est-à-dire que dans les cités-jardins, dans le plan des cités-jardins, dès le départ, on va prévoir à la fois des espaces verts, à la fois le petit jardin de devant qui est le jardin où on peut planter ses fleurs et montrer que on a un petit foyer bien entretenu, et derrière en fait des jardins en bande qui sont les jardins ouvriers. Et c'est ça, je pense, la nouveauté des cités-jardins par rapport à d'autres modèles urbains qu'on a pu voir auparavant où on distinguait les deux.
Voilà. Alors du coup, la précision, et je vais vous laisser répondre tout d'abord dessus, de quelle manière est-ce que les cités-jardins ont pu favoriser ou non la mixité sociale et la tendance d'entre-soi qui peut exister, notamment sur certaines cités aujourd'hui, et de quelle manière ils pourraient avoir une reproduction de logique d'exclusion sociale?
Alors ça, c'est la grosse tarte à la crème autour de la question de la périurbanisation. On dirait, et certains l'ont affirmé, des spécialistes ou des spécialistes autoproclamés disent « Ah, la périurbanisation est évidemment la matrice de la montée de l'extrême droite » et qu'il y aurait une surprésentation des votes communautaristes au sens politique du terme dans les périphéries urbaines, démographiquement, et c'est faux. C'est faux. Donc, et les cités-jardins, peut-être pas, mais en tout cas les banlieues pavillonnaires, les espaces périurbains, ces plaques pavillonnaires périurbaines qui sortent de terre en France à partir du moment où les Français ont des voitures, des années 60, seraient des lieux d'entre-soi. Et finalement, comme le disent certains paysagistes avec le ton d'ironie, on est passé des villes médiévales qui étaient fortifiées tout autour à des espaces périurbains où le pavillon est fortifié par la haie de Tuya. Voilà. Et on a encore des chevaliers. Ils ne sont plus à cheval sur des destriers, mais en train de pousser la tondeuse. Voilà, ça, c'est voilà. Mais il y a d'autres géographes, notamment Michel Lussault, qui m'attendait, son nom va me revenir, Éric Charme, voilà, qui dit, mais attention, les plaques pavillonnaires, qui sont une sorte de soi-disant dévoiement de l'idéal de la Cité-Jardin, c'est vrai, c'est faux, c'est plus complexe que ça, mais en même temps, c'est un lieu de biodiversité. Et la loi SRU de 2000, qui est la loi Solidarité Renouvellement Urbaine, qui est la matrice des politiques d'urbanisme aujourd'hui, qui promeut une ville dense, plus efficace thermiquement. Moi, je veux bien, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas thermicien, mais en même temps, les plaques de pavillonnaires, les cités-jardins du début du XXe siècle, comme les plaques de périurbains des années 60 à aujourd'hui, sont des réceptacles de biodiversité. C'est des espaces qui sont beaucoup moins artificialisés. Et on me dit, bah oui, mais le bilan carbone des transports motorisés, bah oui, mais au fur et à mesure que le parc automobile va s'électrifier, on peut repenser la question. Alors, Éric Charme, dans sa thèse et ses travaux sur la périurbanisation, dit, attention, il y a aussi des espaces périurbains qui sont parfois dans une logique d'entre-soi. Faut pas... Mais en même temps, il y a... moi, je suis un homo périurbanus, j'y ai passé mon enfance. Il y a des logiques de solidarité bien évidente, des effets de quartier, enfin, les espaces périurbains qui seraient le lointain descendant de l'idée de Garden City ne sont pas du tout des lieux ni d'entre-soi ni de relégation. Et au demeurant, on dit que les primo-accédants quadragénaires n'ont d'autre choix que d'acheter un pavillonnaire dans un gradient de périphérie qui correspond à leur capacité d'endettement. Oui, mais ils n'y vont pas contraints et forcés. Il y a des choix d'élire domicile dans des espaces périurbains. Donc, cette diabolisation des périphéries, moi, excusez-moi d'être un peu polémique, mais j'aimerais d'abord connaître l'adresse postale de celui qui diabolise ces périphéries. Voilà. Ensuite, on en rediscute sérieusement.
Pour compléter, au niveau, historiquement, sur les cités-jardins, on dit par facilité que c'était pour les ouvriers, mais c'était pas que pour les ouvriers. Hein. En fait, Henri Sellier, il travaillait, par exemple, étroitement avec une femme qui s'appelait Berthe Lémarie, qui est une des premières femmes à avoir fait une thèse d'urbanisme et qui a travaillé sur l'histoire sociale des cités-jardins. Et quand elle a fait un premier recensement, en fait, des personnes et des professions des personnes qui habitaient dans les cités-jardins, on est à 50% d'ouvriers, et le reste, ça va être des commerçants, de la fonction publique, d'autres types de métiers. Donc déjà, en fait, dès le départ dans les cités-jardins, il y a une certaine mixité. Et d'ailleurs, il est prévu différents types de logements en fonction de ces personnes-là. Donc on va avoir les logements pour les familles nombreuses. À Suresnes, par exemple, on avait les logements pour les indésirables. Alors on n'a pas réussi exactement à savoir ce que c'était, mais... on se doute que ce n'étaient pas les plus fortunés qui habitaient dans cette partie-là, qui était à l'extrémité quand même de la cité jardin. Vous aviez aussi des logements donc, pour les célibataires, pour les personnes âgées, et vous aviez soit des immeubles, soit des pavillons qui étaient plus pour les familles un peu plus cossues, on va dire. Donc là, il y avait des salles de bain dans les logements, puisqu'on est en 1920, c'était le comble de la modernité, on avait les WC, mais on n'avait quand même pas la salle de bain. Il faut attendre les grands ensembles pour avoir les salles de bain dans le logement social. Donc il y avait cette mixité de population, quand même, initialement. Une deuxième élément de réponse, c'est que les cités-jardins, il y en a voir qui vont être construites avant une loi, qui est la loi de 1912, de la loi Bonnevet, qui va créer et permettre la création des offices publics d'habitation à bon marché. Donc en gros, les logements sociaux publics que l'on connaît, portés par Henri Sellier, et qui va être aussi aujourd'hui Seine-Saint-Denis Habitat, Haute-Seine Habitat, ce type de bailleurs. Et avant, il y a eu quand même des cités-jardins qui ont été construites, mais c'était porté par des offices privés d'habitation à bon marché, ou par des sociétés aussi coopératives, où en fait les habitants des cités-jardins louaient leur pavillon, et à la fin, en fait, ils étaient propriétaires. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces quartiers-là sont aujourd'hui de la propriété privée, et de la propriété privée parfois assez cossue. Donc là, on n'est plus sur de la mixité sociale. Une des cités-jardins les plus emblématiques, alors vous parliez de 1912, il y en a eu qui ont été construites dès 1905, en fait, dès le moment de Letchworth. La cité Bruno à Rheims dans le nord, dans le bassin minier, parce que beaucoup de cités jardins aussi dans le bassin minier, bien sûr, et à Paris Jardin à Draveil, qui est donc du coup des ouvriers qui ont, de Paris qui ont décidé de construire leur cité jardin à Draveil, parce que c'était pas loin, donc Paris Jardin, voilà, avec, avec le train. Et aujourd'hui, c'est hyper, enfin voilà, c'est très gentrifié, si on peut dire ça. Enfin voilà, les pavillons sont beaucoup plus chers. Enfin, on n'est plus du tout sur du logement social et ouvrier, et on va retrouver un peu le même phénomène dans les cités jardins construites pas par des offices publics. Mmh. Ensuite, avec les cités jardins construites par l'office public, la majorité sont encore du logement social, et encore du logement social avec les loyers les plus bas. C'est-à-dire que vous savez, dans le logement, dans les HLM, vous avez plusieurs types de logements. Et donc, c'était le plus bas parce que la classification s'est faite au moment où les cités jardins, bah, elles n'avaient pas été réhabilitées dans les années 80, il n'y avait pas encore de salle de bain obligatoirement, donc les loyers les plus faibles. Il y a quelques bailleurs qui ont vendu aussi. Donc, par exemple, à Suresnes, l'ensemble des pavillons sont de la propriété privée, qui sont, vous l'imaginez, des petits pavillons à Suresnes vendus très cher. Mais il n'y a pas que des pavillons, il y a aussi des immeubles encore, hein, qui sont... Enfin, voilà, vous aviez montré avec la cité des Grésillons, il y a aussi... Et donc là, ça reste du logement social. Voilà pour vous expliquer un petit peu. Donc, il y a c'est un petit peu la crispation, elle peut se faire là, avec l'enjeu aussi, on en parlera peut-être après, de réhabilitation et de risque, en fait, de ne pas trouver de financement pour réhabiliter le logement social des cités jardins.
Très bien, parce que justement, on pourrait en croire que c'est quelque chose qui est fait exprès pour les villes qui sont en dehors de Paris, parce que finalement, Paris est une ville très peu adaptée de nos jours. Pour un modèle qui est vu, enfin, qui était vu comme celui de Howard à l'époque. Et donc, qu'en est-il maintenant des très grandes villes, puisque l'étalement urbain l'impose, il y a une pression immobilière, et donc une pression sur les jardins et n'importe quel endroit où on peut construire. Mmh. Et donc, ont-elles un avenir? Vont-elles réussir à survivre, celles qui sont déjà existantes? Et finalement, est-ce qu'elles ne sont pas réservées à peut-être... comme c'était déjà le cas au moment de Howard, à l'époque, au XIXe siècle, qui était une gentrification moins importante, et peut-être pour ça que les Français le voyaient différemment aussi, c'est que Paris était déjà une énorme gentrification, finalement, de beaucoup d'industries, et donc une pression déjà qui était assez importante en termes de nombre d'ouvriers à caser, et que l'Angleterre était peut-être... avec, on parle souvent du bassin ouvrier de côté de Liverpool, et choses comme ça, qui étaient peut-être plus disparates, contrairement à la France, où il y avait certes un bassin minier dans le nord, mais beaucoup de concentration du côté de Paris, finalement. Donc, okay. Voilà, quel en est l'avenir?
Déjà, Paris, on le sait mal, mais c'est encore aujourd'hui la cinquième ville la plus dense au monde, après Manille, Calcutta, Singapour, voilà. Encore aujourd'hui, alors que Paris aujourd'hui, c'est moins de 2 200 000 habitants. En 1921, c'était 2 millions 9. C'était 2 millions 9, 2 millions 9 en n'incluant pas les poches d'industrie qui consommaient énormément de foncier dans Paris. Donc c'était 2 millions 9 sur des espaces qui étaient peut-être 40% plus faibles qu'ils ne le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, où les usines ont quitté Paris et sur ces grandes emprises foncières ont été aménagées dès les années 50 des vastes opérations de logement. Et donc aujourd'hui, on a un Paris qui, malgré cet énorme desserrement, reste une ville très dense. Et c'est vrai que finalement, il y a dans la manière dont les Parisiens ou dans les citadins, parce que le cas de Paris, qui est une ville récurremment corsetée par des enceintes ou militaires ou fiscales, et toujours été une ville très dense, c'est le contraire de Londres, qui est une ville étale, hein, très, très peu dense comparativement. Hein. Il est vrai que Paris et ses centres-villes sont surdenses, et la question de trouver moyen de se loger en individuel hors de Paris n'est pas qu'une affaire de politique sociale, mais c'est aussi une affaire de distinction sociale. Et on a le cas du Vésinet dans la banlieue ouest, qui sort de terre dès les années 1850. Voilà. Et Paris Cité-Jardin, dont vous parliez aujourd'hui, bah, c'est un cas inverse, c'est-à-dire s'est lancé dès 1911 avec le travail de Jean Walter qui dessine une sorte de grand parcouet, très bien, mais c'était fait pour des gens relativement modestes à l'origine. Mais maintenant, Paris Cité Jardin fait l'objet d'une gentrification et donc finalement, ces cités jardins sont rattrapées par les aménités qu'elles permettent, à savoir une faible densité des jardins, quitte à payer cher le fait d'être en périphérie des centres d'activité. Mais aujourd'hui, on l'a vu depuis le Covid de 2020, le fait de ne plus avoir la nécessité d'aller à la Défense pour y travailler, puisqu'on ne peut pas y travailler chez soi, rend ces espaces périphériques peu denses et verdoyants encore plus attractifs. Voyez. Et il y a eu tout un travail un peu doctrinal d'un certain nombre d'agences d'urbanisme, de ce qu'on appelle les CAUE, hein, les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement qui sont départements, de travailler sur la question de densifier les fonds de parcelles de lotissement en général et de cités-jardins passés dans le privé où on abandonne la question du respect des cahiers des charges pour densifier les fonds de parcelles. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une maison sur un vaste terrain, on en aura trois. Hein. On pince les entrées carrossables de portail et vous avez trois maisons dans la profondeur de la parcelle. Hein. Et ça, c'est quelque chose qu'on constate un petit peu partout en banlieue parisienne, dans les périphéries des villes françaises. Et donc, l'aimant de Howard vers la Garden City continue de jouer à plein encore aujourd'hui, évidemment.
Pour rebondir juste sur ce que vous venez de dire, en parlant du travail des CAUE, justement, oui. Et de la densification des parcelles, il y a en plus un petit biais, c'est qu'en fait, les cités-jardins, les pavillons sont tout petits. Et donc, si on veut aujourd'hui faire en sorte de loger des personnes dans ces pavillons, soit on fusionne les deux pavillons, puisque c'est souvent des pavillons mitoyens, soit justement on travaille derrière. Et pour le coup, c'est aussi des travaux qui ont été menés récemment par l'école d'architecture de Paris-Belleville sur la petite cité-jardin de à Drancy, donc pas Drancy-la-Muette, une autre qui est juste à côté, Paulbert, qui est du logement social. Avec Seine-Saint-Denis Habitat qui se dit comment on peut faire pour réhabiliter ces logements et que ça soit viable. Et l'idée, c'est exactement ce que vous disiez, c'est d'amener et étendre par l'arrière sur les jardins qui sont aujourd'hui en fait des jardins, on parlera peut-être plus tard, les jardins nourriciers. On n'a plus cet usage aussi concret en fait d'avoir un énorme potager à l'arrière et donc aussi empiéter un peu sur ce jardin nourricier. Voilà.
Et c'est parfait, vous me faites une transition parfaite. Justement, dans les aspects futurs et l'évolution qui pourrait être sur la construction des villes et des cités-jardins, qu'est-ce l'aspect pourrait être abandonné ou préservé justement et quelles sont leurs pertinences aujourd'hui ?
Alors j'avais lu votre question et moi j'avais répondu tous et aucun. dans le sens, je m'explique, que les cités-jardins, c'était il y a un siècle. Donc, ce dont on avait besoin il y a un siècle, ce n'est plus du tout ce dont on a besoin aujourd'hui. Et ce serait complètement anachronique de dire on ouvre l'ouvrage d'Ebenezer Howard et on reprend tel quel les considérations, les préconisations qu'il a faites. Néanmoins, nous, au sein de l'association, juste petite parenthèse pour que vous compreniez, en fait, nous, notre association, les adhérents, ça va être des villes, des bailleurs, des établissements d'enseignement supérieur, des chercheurs, des associations comme les CAUE, etc. Donc, en fait, je suis la salariée, mais je représente, on a des commissions de recherche et de pensée sur les cités-jardins. Et on est au tout début et aux prémices des réflexions sur qu'est-ce qu'une cité-jardin du 21e siècle. Donc là, ce que je vais vous dire, on est encore en cours de réflexion là-dessus. Mais ce qui est apparu, c'est qu'en fait, les cités-jardins, la valeur patrimoniale des cités-jardins, elle peut se définir sur quatre piliers, qui sont donc du coup ce dont on a parlé hein, aujourd'hui. Donc le paysage, donc la notion d'espace vert, hein, l'urbanisme, l'architecture et le social. Le paysage à l'époque, c'était en effet d'avoir des espaces verts, mais pas du tout les espaces verts qu'on imagine aujourd'hui. Hein. C'était des greens anglais avec de la pelouse bien tondue où les enfants n'avaient pas le droit de jouer dessus et sans aucune volonté de biodiversité là-dedans. Si on veut continuer d'avoir cette valeur paysagère dans un quartier, que ce soit une cité-jardin ancienne ou une nouvelle cité-jardin, il faut que cette valeur paysagère devienne plutôt ce qu'aujourd'hui on appellerait biodiversité et avec un intérêt sur l'environnement. La valeur urbaine, on va dire qu'à l'époque, c'était de proposer un plan, en fait, hein, quand même, parce que c'était des énormes quartiers. Hein. Pour exemple, la cité jardin de Stein, il y avait un tout petit village, et elle arrive, c'est trois fois la superficie du petit village qui était à côté. Pour vous dire, les habitants de Stein, ils appellent la cité jardin le vieux Stein. Pour eux, c'est ça. Et puis après, tout ce qui a été construit après, les grands ensembles, c'est ce qui est de nouveau. Mais pour eux, c'est ça l'origine de Stein. Donc, un plan assez organisé. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce n'était pas orthogonal. Hein. Il y avait les rues, elles sont faites exprès pour être un peu arrondies, pour que les points de vue, donc pour le coup, le point de vue du paysage soit toujours un petit peu différent. Et surtout, il y a une réflexion sur le fait d'avoir des commerces au pied d'immeuble, d'avoir les équipements, etc. On pourra après débattre de ce que c'est qu'une cité-jardin parce que la définition est assez mouvante, mais voilà. Et donc ça, aujourd'hui, on va pouvoir parler, vous connaissez certainement la notion de la ville du quart d'heure, d'avoir toujours maintenant tout à proximité et faire en sorte de ne pas avoir à prendre sa voiture ou à prendre les transports en commun pour arriver proche. Bah, la cité-jardin, elle l'a aujourd'hui. Mais il faut continuer.
Mais finalement, c'était un rebondissement avec ce que disait Howard, avec tout ce qui était école, aussi commerce et choses comme ça. En fait, c'est le fait du quart d'heure était déjà dans chez Howard, alors.
Quasiment,
parce que franchement, moi, quand je suis allée visiter la cité jardin de Letchworth, c'est très grand. Et alors, je sais plus si c'est parce que c'est à l'époque, on était avec les personnes qui travaillent à Letchworth, et je me souviens plus s'ils disaient que c'était Howard ou Ebenezer, Enwin, qui disait ça, mais que le vélo avait sauvé Letchworth parce que c'est assez grand et que du coup, il fallait quand même utiliser le vélo pour aller d'un point à un point B. Mais oui,
vous avez complètement raison. C'est la ville du trois
quarts d'heure. Oui, c'est ça. Enfin, c'est vrai que c'est un peu grand. Les avenues sont assez grandes, par rapport en tout cas aux cités jardins françaises. Mais oui, voilà, donc du coup, vous avez tout à fait raison. Et ensuite, au niveau de l'architecture, vous aviez au préalable aussi parlé de la question des matériaux de construction. En fait, mais ce n'était pas d'un point de vue développement durable, il n'y avait pas du tout ces questions-là à l'époque, c'était aussi d'un point de vue économique, on allait chercher les matériaux qui étaient juste à côté. Donc souvent, ça va être des soubassements en pierre meulière, parce que c'est la pierre du coin, et puis de la brique avec des briqueteries locales, parce que voilà, c'était moins cher. Donc ça, aujourd'hui, et donc du coup, alors ça n'a pas de confort d'hiver, mais c'est un bon confort d'été. Donc ça, c'est aussi intéressant. Donc ça, aussi, retravailler ces questions-là. Retrouver aussi, pourquoi pas, c'est une structure en poteau-poutre, en fait, finalement. Donc du coup, c'est facile aussi de réorganiser par étage et refaire en fonction des plans d'aujourd'hui, en fait, parce que dans les appartements, il n'y avait pas de salon, ça n'existait pas à l'époque. Les salles de bain étaient toutes petites. Donc aujourd'hui, il y a aussi une volonté de un F2 de l'époque devient un F1. Donc ça, c'est pour vous dire, je finis là-dessus. Et ensuite, le pilier social, eh bien, en effet, c'est essayer de ramener cette mixité sociale. Je vous disais au début qu'il n'y avait que 50% d'ouvriers. Aujourd'hui, maintenant, on est quand même sur 100% dans les cités-jardins qui sont encore du logement social, hein, les cités-jardins publics, 100% du logement social. Et donc, il y a aussi un appel de pas non plus tout vendre, et c'est pas du tout l'idée, mais de ramener aussi autant c'est pas bon qu'il y ait des quartiers uniquement gentrifiés, autant c'est pas bon non plus qu'il y ait que des quartiers qui sont un peu plus paupérisés avec que des HLM. Donc voilà, il faut retrouver aussi un petit peu cette mixité dans les cités jardins, donc juste réadapter en fait. Voilà.
Effectivement, si je peux poursuivre, il y a la question de la patrimonialisation actuelle des cités-jardins. Et c'est là que le bât blesse. Hein. On a le désastreux exemple à venir de la destruction annoncée de la plus belle des cités-jardins françaises, qui est la cité de la Butte Rouge à Châtenay-Malabry, qui, parce que le tramway passe dorénavant devant, suscite la cupidité de pas mal d'élus et d'opérateurs. Et cette magnifique cité-jardin, la Butte Rouge, avec des bâtiments qui étaient initialement rouges et aujourd'hui roses, on a laissé finalement se paupériser la population. On a laissé, par faute d'entretien, les appartements se dégrader dans une sorte de cynisme qui amène. Vous voyez bien, c'était en mauvais état, on a bien fait de détruire. Voilà. Et un ministère de la Culture qui ne fait pas nécessairement aussi bien son travail qu'il devrait et qui propose donc juste un maintien de 30% des espaces exceptionnels de la cité de la Butte Rouge. La cité de la Butte Rouge, c'est de la peut-être la plus exceptionnelle, la plus importante, la mieux dessinée des cités-jardins franciliennes du département de la Seine, peut-être l'une des plus importantes en France, et qui est équivalente à ce qu'on appelle, donc ce que je vous l'avais dit tout à l'heure, les Siedlungens allemandes. Ces Siedlungen, par exemple, Siemensstadt, construite par Gropius, par Scharoun, les grands architectes modernes allemands dans les années 20, début des années 30, sous la République de Weimar, ces Siedlungen sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et nous, en France, soit on les laisse pourrir, soit on les détruit. Par manque de culture, par manque de volonté, et aussi parce qu'elles ne sont pas suffisamment pensées dans la durée comme étant des modèles urbains à venir, ce qu'elles sont. Mais, évidemment, comme le disait Noémie, il n'est pas question de décalquer Garden Cities of Tomorrow, publié en 1909 sur les réalités de 2025, mais de se dire que finalement le contrôle de la densité, en maintenant un rapport pensé cohérent entre surface habitable et espace paysager, était peut-être la manière la plus prudente de concevoir les villes de l'avenir, pour répondre à votre question. Je ne sais pas si vous êtes un jour monté en haut du Burj Khalifa à 625 mètres d'altitude, la tour fait 828 mètres, et quand vous êtes le nez contre le pan de verre, vous regardez la ville en bas, bah vous avez la matrice, c'est des autoroutes, des petites voitures qui sont comme des fourmis, et on a en fait un vieux futur. C'est-à-dire exactement la ville telle que le pavillon de la General Motors la concevait dans l'exposition universelle de New York en 1939. Des gratte-ciels, des autoroutes. Et c'est en train de se construire et ce modèle est tellement puissant que rétropédaler et cultiver nos élus pour qu'ils arrivent à comprendre qu'au-delà d'une petite perte de bénéfices sur 10 ans, mais un bénéfice à 3 siècles, il y a un coût à jouer. Mais là, ça suppose une culture. Et les Siedlungen allemandes sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et nous, en France, on n'est pas capable de faire pareil.
Et alors, je vais en profiter pour rebondir. Et au passage, vous allez pouvoir rebondir dessus, je pense. Justement, qu'est-ce que vous conseillez, vous, et notamment vous, Madame Moringuen, pour sauvegarder ces cités-jardins au XXIe siècle et pouvoir les réhabiliter et les réutiliser aujourd'hui.
Alors, du coup, je me souviens plus de ce que la petite truc que je... Bon, c'est pas grave. En tous les cas, déjà, c'est de mieux connaître ce patrimoine. Ça paraît une évidence, mais en fait, comme vous le disiez, il y a un manque de connaissances sur ce type de patrimoine. Et donc, c'est aller le visiter, par exemple, la cité-jardin de la Butte Rouge. Si vous regardez sur votre téléphone, vous voyez des photos, vous allez dire, oui, c'est sympa, mais quand on y va, quand on visite ce quartier, en fait, il y a aussi une topographie qui ouvre des fenêtres de point de vue, etc., qui fait aussi tout l'intérêt de cette cité-jardin. Et donc, mieux faire connaître aux habitants aussi, parce que pour nous, et pour moi, c'est l'important, c'est aussi de... On peut défendre, et il peut y avoir des chercheurs qui défendent les personnes qui habitent dans ces quartiers ne se rendent pas compte de là où ils sont. Et c'est aussi redonner, et ça, pour le coup, c'est aussi dans le patrimoine des cités-jardins, c'est redonner de la noblesse aussi aux personnes qui y habitent en disant, oui, en fait, vous êtes dans du logement social, mais qui a une histoire, et on prend en compte là où vous habitez, et ça, c'est aussi quand même très important. Donc, du coup, il y a ça, c'est la première base, et nous, par exemple, au sein de l'association, on a un événement qui s'appelle le Printemps des Cités-Jardins, qui, sans surprise, est au printemps, fin mai, début juin, et qui, justement, permet de proposer des visites un petit peu partout dans les cités-jardins. Donc, si vous n'êtes pas encore allé, je vous y invite. Donc ça, c'est une question première de valorisation, de connaître ces quartiers. Et puis après, il y a en effet l'enjeu de comment faire pour les réhabiliter. Et ça, c'est très complexe. On a les cités-jardins privées, déjà là, qui sont maintenant des propriétés privées. Là, il y a une énorme problématique, parce que même si c'est au plan local d'urbanisme, le problème, c'est que chacun va réhabiliter sa façade d'une manière, changer son portail, et l'unité architecturale est complètement perdue. Le meilleur exemple, c'est la cité-jardin d'Épinay-sur-Seine de Blumenthal, qui a été grand prix lauréat du concours des cités-jardins ex aequo avec la campagne à Paris dans le 20e. Donc la campagne à Paris est aussi une cité-jardin à la base. Parler d'exemples aussi comme Paris Jardin. Et aujourd'hui, on se balade dans la cité-jardin Blumenthal. On ne voit plus cette unité-là. Donc il y a aussi un travail là de sensibilisation. Et pour les logements sociaux... On est en cours de réflexion. Il y a des pistes. Il y a aussi un enjeu crucial qui est la loi climat et résilience de 2021, qui en fait oblige hein, les bailleurs et tout propriétaire de faire en sorte que les logements soient à un DPE qui soit relativement accessible. Donc ça arrive petit à petit. En 2025, c'est le G. 2028, c'est F. Et 2034, c'est E. Mais il y a une urgence un petit peu parce que, comme je vous le disais, le confort climatique d'hiver, c'est pas du tout correct dans les cités-jardins. Et donc, il y a ce problème-là. Donc, il y a des réflexions qui sont faites aussi sur la question de ce que c'est que le DPE patrimoine. En fait, il y a cette idée de DPE patrimoine qui est en train de se développer, qui est plutôt aussi portée par ce que s'appelle le G8 patrimoine. Donc, c'est des associations comme Maison Paysanne de France, Patrimoine Environnement, etc., pour toutes les constructions avant 1954 qui sont construites avec des matériaux traditionnels. Donc après, qu'est-ce que c'est que des matériaux traditionnels? Ça, c'est aussi la question. Et c'est plus compliqué aussi quand c'est du logement social, parce que l'idée, c'est pas non plus de faire loger des personnes dans des conditions insalubres, ce qui perdrait complètement l'intérêt. Néanmoins, il y a des choses à réfléchir. C'est une autre manière de calculer ce DPE. On a parlé des jardins, mais donc, du coup, c'est reste des îlots de fraîcheur aujourd'hui, hein, les cités-jardins. Il y a quand même l'évaporation de la chaleur, il y a une perméabilité du sol. Enfin, donc, du coup, il y a tout ça quand même qui est en jeu. Donc, calculer autrement, en fait, cette déperdition énergétique, ça, c'est aussi une des solutions. Après, il y a d'autres solutions un peu plus... Il y a aussi le fait que, là, c'est du logement social. Il y a aussi les bails réels solidaires qui sont apparus. Donc, c'est de l'aide à l'accession à la propriété. Donc, en fait, le bailleur reste propriétaire du terrain, mais le propriétaire est propriétaire de son appartement et peut le revendre sans spéculation foncière. Donc, c'est des petites... Il y a des choses aussi comme ça qui se mettent en place. Et en tous les cas, il y a aussi cette question de se dire, si on veut vraiment être dans une dynamique de développement durable, très bien, construisant des écoquartiers, etc., mais aussi gardons les cités-jardins d'aujourd'hui en les réhabilitant de bonne manière. Si c'est pour les détruire et reconstruire à côté, c'est pas très développement durable. J'ai pas eu le temps là, de revérifier, mais il y a une loi aussi qui est... Je ne sais plus où est-ce qu'elle en est exactement, parce que il y a quelques temps, en fait, les prêts, le taux d'intérêt des prêts pour du neuf était plus avantageux que les taux d'intérêt de prêts pour de la réhabilitation. Donc, bien sûr, ça n'incitait pas les bailleurs publics à faire de la réhabilitation. Donc ça, voilà. Donc là, j'ai, c'est aussi des solutions, des pistes là-dessus.
Avant que vous me posiez une question encore plus passionnante que les précédentes, il y a quelque chose aussi qu'on ne mesure pas. C'est que Noémie, vous faisiez très justement dans votre développement historique une succession entre les cités-jardins et leurs applications plus ou moins citées, et l'arrivée des grands ensembles, dont la cité de la Muette à Drancy en 1934 est le prototype, et qui commence avec les grands ensembles pilotés par le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme à partir de 1950. Mais il y a en fait encore un gros trou dans la raquette dont il faut parler ce soir, c'est la question de l'architecture de la reconstruction. Alors, la reconstruction après 18, qui a fait appel très souvent à des matrices de cité-jardin ou à une pensée hygiéniste qui puisait certains thèmes de la cité-jardin pour reconstruire des villages détruits du côté du chemin des Dames ou ailleurs, sur une bande de 250 km de Dunkerque à Belfort. Mais il y a la deuxième reconstruction, post-44, qui, elle, amène la France à reconstruire sur la quasi-totalité de son territoire. Et cette deuxième reconstruction, ce sont des villes denses, comme le Havre, reconstruite par l'équipe d'Auguste Perret, qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2005. Mais il y a aussi des petites villes. Moi, j'ai fait un livre sur Saint-Pierre-des-Corps. On connaît tous Saint-Pierre-des-Corps pour y être passé en TGV. Certains pessimistes et grognons disent que c'est la ville la plus laide de France. Et en fait, non, quand vous promenez sur le boulevard Paul Langevin, c'est une Garden City des années 40-50. Et donc, il y a un grand parkway, c'est-à-dire un grand terre-plein central planté où vous pouvez faire passer des pistes cyclables comme vous le souhaitez. Et de part et d'autre, des maisons en bande très peu denses, exactement comme ce que vous disiez, Noémie. Et donc, avec une petite bande de jardin, on fait pousser les roses trémières. Et derrière, bah, on fait sécher les chaussettes et on fait pousser les carottes. Vous voyez ? Et ça, c'est exactement le jardin vivrier d'un côté et le jardin hygiéniste et de promotion sociale devant, hein, sur côté trottoir. Et ces cités-jardins dernière génération, si j'ose dire, sont sortis de terre dans les années 50-60. Hein. Et très souvent, et là, c'est encore quelque chose à quoi nous, Français, ne pensons pas assez, c'est à la question de l'extrême qualité architectonique et paysagère de bien des villes reconstruites, de la seconde reconstruction, pas simplement les villes denses, donc bah, Brest, Caen, Le Havre, et d'autres, Saint-Lô, Coutances, Saint-Malo, mais également des villes de périphérie de ces grandes villes, hein, qui étaient périphéries plus ouvrières, plus industriel. Et là encore, il y a un coup à jouer parce qu'il faut toucher les maires, les cultiver au bon sens du terme. Et très souvent, on a une oreille très attentive. Et moi, quand je suis allé voir le maire de Saint-Pierre-des-Corps, il me dit « Mais monsieur Minard, vous n'y pensez pas. Penser le patrimoine de la deuxième reconstruction, on vient en Val-de-Loire pour voir les châteaux de la Renaissance. » Il dit « Monsieur le maire, vous allez changer d'avis. » Puis à la fin, il m'a dit « Oui, vous avez raison. » Voilà. Et tout ce patrimoine de la deuxième reconstruction, cette deuxième reconstruction est une à la fois de la ville dense, mais aussi de la cité-jardin. Voyez, et donc, ce modèle-là a la vie dure, parce qu'il répondait à une attente des Français. Et je vous rappelle qu'il y a une enquête de l'INED en 1947 qui demande aux Français, un échantillon de Français, où voulez-vous vivre, dans du logement collectif ou du logement individuel? À 72%, les Français disent dans du logement individuel. Alors, vous savez, hein, la République française, c'est comme l'armée. Hein, vous demandez à la marine, vous vous retrouvez dans les chasseurs alpins, tout le monde dans le collectif. Voilà. Mais quand je dis tout le monde dans le collectif, il y a encore un autre impensé. Tout le monde dit, à partir de 50 et jusqu'à la circulaire Guichard en 73, on produit des grands ensembles. 200 000 logements par an, 400 000, 550 000 logements produits en 73, 550 000. Aujourd'hui, avec 20 millions de citoyens en plus en France, on plafonne à 310 000. Vous voyez l'effort constructif. Mais ce que les historiens oublient souvent de dire, c'est que à côté des grands ensembles, Sarcelles, là encore, le destin est un peu trop vite scellé, la République promouvait aussi l'accès à du pavillonnaire normé, avec des plans types qu'on allait chercher en direction départementale et l'équipement. Et combien de pavillons, années 50, 60, sortent de terre en périphérie de village, pas nécessairement dans une pensée urbanistique cohérente, donc on dit oui, mais c'est du mitage, bah oui, mais c'est du pavillonnaire à bas bruit qui montre, et là évidemment avec petit jardin, mais d'une certaine manière, c'est aussi là encore le modèle qui a la vie dure, hein, et on n'empêchera pas les Français d'habiter dans des maisons avec jardin. Hein, voilà.
Juste une petite, parce que je trouve que c'est passionnant ce que vous disiez sur qu'en fait c'est aussi des cités jardins, les oui. constructions. En fait, pour vous expliquer, des fois on se demande mais qu'est-ce qu'une cité jardin? Alors vous allez vous dire après une heure et demie, c'est un peu dommage. Temps, ouais. Vous l'avez très bien expliqué, et je fais ça un petit peu en provocation. Mais ce que je veux dire par là, c'est que donc nous en France, on a une vision très historique des cités jardins. C'est plutôt des ensembles de logements sociaux construits durant l'entre-deux-guerres. Il y a eu un repérage qui a été fait avec le service inventaire de la région Île-de-France. On est à plus de 80 cités jardins en Île-de-France. Là, on est en train de commencer un repérage national avec les CAUE, les services inventaires et les maisons de l'architecture. On est à plus de 420 cités-jardins dans les autres régions, avec les autres régions en tous les cas. Et en fait, il y en a qui n'ont pas d'équipement. Il y en a qui sont beaucoup plus petites, qui sont beaucoup plus modestes, qu'on appelait cité-jardin à l'époque parce que, un peu comme les écoquartiers aujourd'hui, hein, c'était aussi un peu à la mode, ça vendait bien, etc. Mais on les repère et on les définit aujourd'hui comme cité jardin parce que ça permet aussi en fait hein, de valoriser et de protéger, de promouvoir ces quartiers qui sinon seraient complètement oubliés, et donc c'est aussi une histoire ouvrière qui veut être aussi défendue. Mais pour vous raconter une petite histoire, en 2024 avec un collègue, on est allé à un colloque international à Amsterdam pour les 100 ans d'un colloque sur les cités-jardins où il y avait eu des Français qui avaient été invités, etc. Et donc, le sujet, c'était les cités-jardins. Et nous, on arrive, on pensait qu'on allait parler, j'exagère un tout petit peu, hein, mais des cités-jardins de l'entre-deux-guerres. Et en fait, pas du tout. Ils n'ont absolument pas parlé de ça. Ils ont parlé de, comme vous avez aussi l'idée, c'est des cités-jardins du XXIe siècle. Et pour eux, en fait, et pour beaucoup de conceptions, notamment néerlandaises ou belges aussi, en fait, les cités-jardins, pour eux, c'est avant tout des quartiers avec une certaine autarcie, avec des équipements, des commerces, une mixité. Alors que nous, on a une vision un peu plus... on va dire historique de la chose. Et donc, vous parliez tout à l'heure de Le Corbusier. Pour eux, Le Corbusier, c'est pas des grands... C'est une cité-jardin verticale, en fait. Voilà. Et du coup, ça nous a un petit peu bousculé, on va dire. Mais c'est très intéressant parce que, finalement, aujourd'hui, bah, qu'est-ce qu'une cité-jardin du XXIe siècle? Bah, c'est aussi à nous de continuer de la définir. Et peut-être qu'en fait... c'est comme tout, hein, on est en sens social, hein, donc une cité-jardin, c'est, on peut être à 100% cité-jardin ou à 20% cité-jardin, et puis voilà, ça fluctue, et essayer de voir justement qu'est-ce que la cité-jardin du XXIe siècle.
Et donc on va s'arrêter là-dessus. Moi je tiens à vous remercier tous les deux pour ces échanges si riches, en tout cas, et puis ça nous a permis de nous éclairer encore plus sur la question des cités-jardins. Et je tiens donc à remercier aussi la chaire, Avenir Commun Durable, aux professeurs qui nous ont parrainés, donc les trois professeurs, Dario Mantovani, qui s'est fait discret dans la salle, aussi bien Jean-Marie Tarascon et enfin Marc Foncave. Je tiens aussi à vous présenter, donc nous sommes une association étudiante journalistique. Nous avons eu la chance, grâce à cette chaire, de pouvoir organiser ces conférences qui nous tiennent à cœur. Et je tiens à vous inviter, en tout cas, pour la prochaine conférence qui a lieu la semaine prochaine sur les récits de science-fiction qui sont en lien donc avec le climat. Voilà. Je tiens aussi également à remercier bien évidemment Benjamin Campèche qui est présent ici, qui a porté le micro et qui nous a aidé pour l'organisation de ces conférences. Et merci à toi, Jules, aussi également.
Merci pour votre invitation.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.